France Inter.
Et c'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Comment éviter de nouvelles émeutes urbaines telles que la France les a connues l'été dernier? Les sénateurs font 25 propositions, notamment pour empêcher les émeutiers de se regrouper via les réseaux sociaux. On va vous expliquer. À Bordeaux, hier soir, une attaque au couteau fait un mort et un blessé. La piste terroriste n'est pas privilégiée pour le moment. On fera le point sur les premiers éléments de l'enquête. Nous reviendrons aussi sur la mort des fils du chef politique du Hamas dans une frappe israélienne à Gaza, sur cette proposition de loi de la majorité contre les discriminations en entreprise, finalement retoquée, et puis sur le raté du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions.
France Inter. Le bilan final des émeutes urbaines de l'été dernier est colossal.
C'est le mot employé par les sénateurs qui viennent de rendre leur rapport sur les événements de fin juin, début juillet, après la mort de Naël à Nanterre. Au moins 1 milliard d'euros de dégâts selon les parlementaires. C'est 4 fois plus que le précédent de 2005. Les sénateurs parlent de 50 000 émeutiers au total, dont un tiers de mineurs. 25 propositions dans ce rapport, je le disais, pour améliorer la réponse des pouvoirs publics. Emmanuel Leclerc, l'une des plus sensibles concerne la restriction de l'usage des téléphones portables.
Les forces de l'ordre se sont tellement fait déborder dans certaines situations que les sénateurs veulent empêcher à l'avenir des émeutiers d'avoir la possibilité de se regrouper très vite pour attaquer, quitte à brouiller le signal de la géolocalisation des téléphones portables pour se guider dans une zone, un quartier déterminé.
Il n'est pas question de couper le téléphone totalement, naturellement.
François-Noël Buffet est le rapporteur de cette enquête parlementaire.
De tout bloquer, l'ensemble des informations qui seraient dans un quartier ou dans une ville, c'est pas ça le sujet.
L'autre mesure que prône le rapporteur de cette mission sénatoriale d'information sur les émeutes, c'est d'empêcher la vente en ligne des mortiers d'artifice.
On s'est inspiré de l'exemple espagnol. Concentrer la vente des mortiers dans des magasins tout à fait classiques, agréés, avec des systèmes de déclaration. On se doute bien que certains essaieront de contourner les difficultés, mais tout de même, ça peut être un élément supplémentaire pour pouvoir éviter l'apport en masse de ces mortiers, dont je rappelle que lorsqu'il est utilisé en tir tendu, peut avoir un caractère létal, mortel.
François-Noël Buffet estime enfin nécessaire de ne plus jamais se retrouver avec des mairies attaquées sans personne pour les protéger, ce qui est arrivé, on le sait, à plusieurs reprises. D'où la nécessité de prévoir des schémas d'intervention entre police municipale, surtout quand elles ne sont pas armées, pas assez nombreuses, et les brigades d'intervention de la police nationale.
Centre-ville de Bordeaux, hier soir un peu avant 20h, autour du très fréquenté miroir d'eau, au milieu des passants, un homme brandit un couteau. Bilan un mort, un blessé grave avant que cet assaillant ne soit tué par la police. Ariane Grissel, pour l'instant la piste terroriste n'est pas retenue.
À ce stade de l'enquête, la piste privilégiée est celle d'une dispute qui éclate un peu avant 20h. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre l'assaillant en train de frapper de plusieurs coups de couteau un homme à terre pendant qu'une voix masculine crie « Arrête ». Les deux victimes sont de nationalité algérienne. L'homme qui a été tué avait 37 ans, celui gravement blessé en a 26. Face à la police, l'assaillant brandit son couteau et décrit comme menaçant. L'un des agents tire et le tue. Des faits survenus sous les yeux des nombreux promeneurs, autant de témoins entendus dès hier dans le cadre de cette enquête confiée à la police judiciaire. Les images de vidéosurveillance sont aussi exploitées, celles de la rue et des commerces alentours, pour savoir s'il s'est passé quelque chose avant. Et puis, s'il est possible de l'entendre à un moment, le récit de l'homme gravement blessé sera déterminant pour essayer de comprendre les raisons précises de ce passage à l'acte.
Ariane Grissel, la maire d'Avallon dans l'Yonne, a dormi en prison. Djamila Bsaoui est partie hier soir en détention provisoire après sa mise en examen dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants qui vise principalement ses deux frères, soupçonnés d'avoir organisé achat et vente de drogue depuis une maison appartenant à leur sœur. 70 kilos de résine de cannabis y ont été retrouvés par les enquêteurs. L'avocat de l'élu l'a décrit auprès de nos confrères de Lyonne République comme abasourdi par cette découverte.
Les critiques américaines sur l'offensive israélienne à Gaza n'empêchent pas le soutien à l'État hébreu.
C'est ce qu'a voulu rappeler hier soir Joe Biden en évoquant la menace d'une attaque importante de l'Iran contre Israël en représailles des frappes contre le consulat iranien à Damas. Notre engagement pour la sécurité d'Israël est inébranlable, assure le président des États-Unis. À Gaza, les bombardements n'ont pas cessé hier en ce premier jour de l'Aïd. L'un d'entre eux a visé la famille du chef politique du Hamas. Les précisions à Jérusalem d'Alice Froussard.
C'est une frappe d'un drone israélien contre une voiture le premier jour de l'Aïd dans le camp de réfugiés Al-Shati au nord de la ville de Gaza. À l'intérieur se trouvaient trois des enfants d'Ismaël Haniyeh, quatre de ses petits-enfants. Tous sont morts. Des analystes le précisent, cette frappe contre les membres de la famille du chef de la branche politique du Hamas pourrait avoir été commise dans un but précis, celui de faire échouer les négociations en vue d'un cessez-le-feu. Ismaël Haniyeh assure que cela n'aura pas d'impact sur la position du Hamas dans ses pourparlers. Toutes les familles de Gaza ont payé un lourd tribut avec le sang de leurs enfants. « Je suis l'un d'entre eux », a-t-il déclaré depuis Doha sur la chaîne Qatari Al Jazeera. Et rappelle le directeur de Human Rights Watch pour la Palestine, les proches des combattants qui ne sont pas impliqués dans les combats restent des civils, tout comme les dirigeants politiques. S'ils ne sont pas impliqués dans les opérations militaires, ils ne sont pas des cibles légitimes au regard du droit de la guerre, insiste-t-il.
Alice Froussard à Jérusalem pour Inter. Le triomphe de l'opposition en Corée du Sud. Le parti démocrate de centre-gauche remporte largement les élections législatives et s'empare donc de la majorité des sièges à l'Assemblée. Coup très dur pour le président conservateur Yoon Suk-yeol. Son premier ministre vient d'ailleurs d'annoncer sa démission. En Pologne, c'est un débat très attendu par les militantes féministes après des années de recul des droits des femmes dans le pays. Le Parlement commence à examiner aujourd'hui une série de projets de loi légalisant l'avortement, promesse de la nouvelle coalition pro-européenne qui a repris cet automne le pouvoir aux nationalistes conservateurs. Dans un pays où l'IVG est quasiment interdit aujourd'hui, il pourrait être autorisé jusqu'à 12 semaines de grossesse. On en est encore loin car l'issue du vote est très incertaine.
En France, c'est un autre signe du sérieux ralentissement de l'activité économique.
Le nombre de défaillances d'entreprises est au plus haut depuis 9 ans au premier trimestre, avec plus de 17 000 procédures selon le cabinet spécialisé Altares. Certains secteurs plus particulièrement touchés, comme l'immobilier, le BTP, d'autres plus épargnés, la restauration, le commerce de bouche. On va y revenir en détail à 6h30. Des entreprises que la majorité voulait davantage soumettre au testing contre les discriminations. Une proposition de loi aurait pu permettre de généraliser ce procédé qui consiste à envoyer deux CV identiques hormis le critère susceptible d'être discriminé. Ce texte prévoyait aussi de publier les noms des entreprises fautives, mais il n'en sera rien puisqu'il n'a pas passé l'obstacle de la commission mixte paritaire. Maxime Debs, députés et sénateurs ont échoué à se mettre d'accord.
L'idée de cette proposition de loi était effectivement de pouvoir généraliser par la loi les testings sur les origines, le genre, le handicap par exemple, un projet défendu par le député Marc Ferracci, élu Renaissance aujourd'hui, forcément contrarié.
C'est extrêmement dommage parce que c'est un outil qui est potentiellement très efficace pour inciter les organisations à changer leurs pratiques, que ce soit les pratiques de recrutement, que ce soit la manière dont on traite les demandes de logement. Et moi, je regrette fortement cette posture.
Posture qui relève de la terre brûlée pour le député, déçu que la droite sénatoriale ait très vite vidé son texte de sa substance, alors qu'il n'y a pas si longtemps encore SOS Racisme épinglait les agences d'intérim sur des pratiques un peu moins courantes peut-être, mais toujours présentes.
Faire des testings, ça n'est pas le remède miracle, mais c'est un levier parmi d'autres. Et il faut surtout que ces testings soient suivis d'effets. Ça veut dire suivis de sanctions, suivis de la publicité des résultats, parfois d'amendes. Mais c'est ce que prévoyait aussi cette proposition de loi. Je pense que l'idée que les discriminations pourraient reculer d'elles-mêmes, c'est une idée qui relève de la pensée magique. Et moi, je pense qu'on ne résout pas les problèmes en faisant confiance à la pensée magique.
Marc Ferracci, qui ne désespère pas de remettre très vite son projet au menu de l'Assemblée.
Maxime Debs.
C'est bien mal engagé pour le PSG en Ligue des Champions.
Et les Parisiens battus hier soir à domicile en quart de finale aller par le Barça, 3-2. La star parisienne Mbappé est complètement passée à côté de sa soirée. Paris est donc en ballotage défavorable avant le match retour à Barcelone, Nicolas Perronnet.
Au moins cette fois, il n'y aura pas de remontada à Barcelone. Le PSG s'est compliqué la tâche dès le match aller. Et déjà parmi les supporters, beaucoup ne seraient pas surpris que la Ligue des Champions s'arrête la semaine prochaine.
Ouais, inquiet, parce que le Barça a été solide. Mais nous, on a quand même des faiblesses en défense.
Ah bon, on est très inquiet pour la qualif. Il va falloir surtout que Mbappé bouge un petit peu les pattes, quoi.
Pour moi, c'est pas encore pour cette année. Là, il n'y a que 6 jours jusqu'au match retour. Donc, ça m'étonnerait que tout d'un coup, la lumière s'allumera, quoi. Donc, c'est flippant.
La confiance a donc changé de camp. Voilà les Parisiens dos au mur, touchés, reconnaît le capitaine Marquinhos, mais pas encore coulé.
On a parlé tous entre nous. On se dit la vérité pour améliorer les choses pour ce match retour, parce que tout est ouvert. Tout est ouvert et voilà comment ils sont venus gagner ici. Nous, on doit y aller là-bas et gagner là-bas.
Pas impossible, mais forcément difficile pour un PSG qui, dans son histoire, n'a jamais réussi à inverser la tendance en phase finale de la compétition. après une défaite au match aller.
Et ce soir, Laetitia, c'est Ligue Europa, 21h, quart de finale à Lisbonne entre les Portugais du Benfica et l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, sans supporters marseillais, interdit de stade par le club lisboète.
Merci Alexis Morel, vous êtes parfait, 6h10. Je vous salue Cédric Guillou.
Bonjour.
L'esprit sport avec vous, alors que la saison de baseball vient de reprendre aux États-Unis. Gros plan sur une commentatrice qui s'est installée derrière le micro pour le club d'Oakland.
Oui, puisqu'en Ligue nord-américaine de baseball, chaque club a son propre commentateur et pour la première fois effectivement dans l'histoire, une femme est devenue la voix régulière et principale d'un club pour l'entame de cette nouvelle saison. Elle s'appelle Jenny Kavnar, elle a 41 ans et elle a été nommée commentatrice principale du club des Athletics d'Oakland. Elle était auparavant, et c'est très précis Laetitia, l'annonceur remplaçant des Colorado Rockies. Elle animait en fait l'avant et l'après-match. Elle a fait ça durant 12 ans et là, elle franchit donc un palier.
Et on comprend Cédric, avant il n'y avait que des hommes, hein, c'est ça?
Exactement. Jenny Kavnar a été intégrée par le groupe audiovisuel américain NBC. Elle a gagné l'admiration des fans et de ses pairs. Nous sommes très heureux qu'elle se joigne à notre excellente équipe, a notamment déclaré Matt Murphy, c'est le président et le directeur général du groupe. Jenny Kavnar, évidemment, qui est ravie. Elle dit « C'est vraiment génial, c'est une super opportunité pour moi, c'est un rêve devenu réalité de me joindre à l'équipe d'Oakland et de leur riche histoire. Je répète, c'est vraiment génial. »
Voilà, Jenny Kavnar qui a été baignée dans le baseball.
Oui, sa grand-mère était une fan de ce sport. Son père aussi était un entraîneur renommé dans le Colorado. Elle a donc grandi, si vous voulez, en tenant des carnets de pointage et en participant à des entraînements. Les fans de baseball d'Oakland pourront donc, et c'est une grande première, l'entendre toute la saison.
Merci Cédric Guillou. L'Esprit Sport en images est aussi à la page Esprit Sport.